se positionner, peu de temps pour l'essentiel. Parce que souvent, leur vie a été caractérisée par des choses non essentielles. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé d'avoir que des fois 5 minutes pour dire à quelqu'un le message de la Bible. 5 minutes. Et l'évangile de Luc a été écrit par un médecin, puisque Luc était médecin. Et vous savez que les médecins, ils sont toujours pressés. Hein. Ils vont à l'essentiel et ils sont là pour donner ce qu'il faut. Et Luc écrit à son ami Théophile, il lui dit, juste dans Luc 1:1, « Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus les serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. » Et pendant 24 chapitres, Luc va reprendre toutes les choses essentielles. Il va commencer par dire, voilà, il y avait quelqu'un dans le désert qui annonçait la repentance, son nom était Jean le Baptiste. Puis après, Jésus est venu, puis il va aller sur toutes les grandes étapes de la vie de Jésus, il va reprendre le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, faire le sermon sur la montagne, il va faire les béatitudes, il va parler de tous les miracles que Jésus a fait pour les Juifs, mais également pour cette personne qui habitait la Syrophénicie. Et Luc va dire, voilà qui était Christ. Je vous présente Christ. Et puis à la fin, au chapitre 24, on va lire ce texte qui est très court et qui est très clair. Luc 24, fin de l'évangile. Il fait une synthèse en 5 minutes de ce qu'il faut retenir de tout l'évangile. Et ce sont les dernières paroles de Christ avant de partir rejoindre son Père dans la gloire. En fait, il cite le moment où Jésus vient prendre un dernier repas. Vous savez qu'il n'y a pas qu'à Créteil qu'on mange. Hein. Dans l'évangile, Jésus passait beaucoup de temps au repas. Et il va prendre un dernier repas avec ses amis. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, c'est le verset 36 de Luc 24, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi en croyant voir un esprit. Parce qu'ils l'ont vu mort, alors ils ont du mal à le croire qu'il est ressuscité. Hein. « Mais pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds !» Et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, mais avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. » Vous êtes prêts ? Mettez votre chrono en marche. En 5 minutes, il y a tout. « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Premier point. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir. » Deuxième point. « Qu'il ressuscitera le troisième jour. » Et on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Amen. Il y a tout là-dedans. Jésus est venu pour accomplir le livre qui avait écrit dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. C'est un peu plus dur les prophètes, hein. Tout ça, ça ne servait qu'à quelque chose. Ça servait qu'à aller vers la personne de Dieu qui descend du ciel, prenant la forme d'homme pour dire « Je m'abaisse pour vous rencontrer ». Mais pas pour régner en plus. L'évangile, c'est pour dire quoi ? C'est que Jésus vous a tellement aimé qu'il a accepté de souffrir à votre place. Qui ? Écoutez l'essentiel, c'est pas compliqué, hein, ça dure dans 2 minutes, c'est fini. Est-ce que vous réalisez bien que Christ a souffert à cause de toi ? Réfléchis bien, tu te crois pas trop mal, tu dis j'ai quand même des valeurs, je fais pas n'importe quoi. La façon dont tu as parlé à la personne de ta famille la dernière fois, c'était indigne. La façon dont tu as été jalouse, ou tu as été jaloux parce que l'autre avait quelque chose et tu l'as même pas reconnu, mais c'était beau, rempli d'amertume tout ça, frustré. Les fois où tu t'es mis en colère, les fois où tu as fait des choses que ta conscience te disait c'est mal, tu l'as fait quand même. Pour toutes ces choses-là, le Christ a souffert. Et il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à payer à ta place à la mort de la croix. Il a pris tes péchés sur la croix. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point que nous dit Luc, c'est que sur la croix, Jésus a tout accompli et il est ressuscité le troisième jour. Un, deux, le troisième jour, il est ressuscité. Et l'évangile se termine en disant, et maintenant, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle, en anglais gospel, ce qui est annoncé par Dieu. Annoncez-le, la bonne nouvelle de l'évangile. Et Luc dit, terminé, voici l'évangile, c'est l'essentiel. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Je crois qu'aujourd'hui, tu as de la chance de connaître l'essentiel. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu réalises qu'il est mort à la croix à cause de tes fautes? Tu as demandé pardon pour ça? Il dit bien, est-ce que tu as changé de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as dit, Dieu, maintenant, tu viens comme, non pas comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Ma vie doit changer. C'est votre cas cet après-midi ou pas? Je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui écoutez ce message, peut-être sur Internet. Alors soyons honnêtes, on va fermer les yeux un instant. Ça, c'est l'essentiel. Dieu veut que tout homme, toute femme soit sauvé. Si tu as commis quelques péchés, si tu as commis des fautes, demande pardon maintenant à Dieu. Sur la croix, il a payé à ta place. C'est extraordinaire, c'est l'évangile. J'ai demandé aux frères désignés ou aux femmes désignées pour la Sainte-Seine de venir sur le devant. Il n'y a pas besoin d'être long pour dire l'essentiel. On va garder les yeux fermés. Jésus a dit avant de partir au ciel, il dit « Je vais vous donner une ordonnance, une chose que j'aimerais que vous fassiez en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous réunirez, vous mangerez du pain, boirez du vin, du fruit de la vigne, mais vous ne le ferez pas comme les autres, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous démontrez votre identité, votre attachement à ma parole en y reconnaissant mon corps et mon sang qui a coulé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous en mangerez. Maintenant, qu'on ne le prenne pas d'une façon indigne, parce que sinon c'est un jugement que vous prenez contre vous-même. Installez juste un instant. Il y a une dernière annonce que j'ai oublié de faire. Une dernière annonce. Très importante, parce que c'est celle qui a changé ma semaine. Ça s'est passé un soir à 19h ici dans ce lieu. Et je suis venu parce qu'il y avait une réunion de prière, vous savez, tous les jours à 19h cette semaine. Je suis rentré, je m'attendais avec la grande foi que j'ai à trouver peu de monde. Et j'ai pris vraiment une leçon. J'ai pris une leçon parce que je suis rentré dedans et puis j'ai entendu Dominique commencer à prier, j'entendais Jennifer qui a prié. Et en fait, ils en voulaient plus. C'est-à-dire qu'ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus que l'essentiel, parce que l'essentiel, ils l'avaient déjà, ils sont déjà sauvés, vous voyez. Et ce qui m'a marqué dans ces prières, c'est qu'elle disait, Dieu, on veut recevoir ton onction. On veut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est étonnant parce que quand Luc a écrit son essentiel, qu'on appelle l'évangile, si tu crois à l'évangile, t'es sauvé. Tu peux être un orthodoxe, tu peux être un protestant, tu peux être catholique, tu peux avoir accès à l'essentiel. Je crois qu'il y a des protestants, des orthodoxes, des catholiques qui sont sauvés parce qu'ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est pas moi qui juge les cœurs, c'est Dieu. Et la grâce de Dieu, elle peut toucher dans n'importe quel milieu. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, sur 900 millions de protestants sur la terre, alors qu'il n'y en avait aucun qui croyait en ça en 1901, aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de protestants qu'on dit protestants charismatiques, qui croient à l'onction de l'esprit qui fait la différence. Et c'est étonnant parce que Luc, quand il termine, regardez Luc 24, regardez juste Luc 24, juste avant de partir, juste avant d'arrêter son évangile et de fermer son livre. Luc, il dit, attendez, il y a juste quelque chose que j'ai oublié de dire. Luc 24, verset 49, c'est Jésus qui parle. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire qu'à la fin de l'évangile, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé, qu'ils n'ont pas expérimenté, qu'ils ne connaissent pas. Quelque chose que Dieu leur dit, ça viendra après, mais il faut le vouloir. Et ça demande de s'accrocher, ça demande de patienter, ça demande de soupirer, d'aspirer, de rechercher. Et pendant plusieurs jours, les disciples vont rester bloqués, comme d'habitude, en allant au culte, comme d'habitude. Ils sont restés dans une chambre haute. Et vous savez pas quoi? Il y a un livre pour ça. C'est qu'après l'évangile, Luc a écrit un deuxième livre à Théophile. Théophile, j'ai la suite! Il s'est passé des actes incroyables qu'ont fait les premiers, qu'on appelle les apôtres. Et ce livre, il s'est appelé Actes des apôtres. Mais certains disent qu'on aurait dû l'appeler les Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est quelque chose qu'ils connaissaient pas avant. Regardez dans Acte 1. Il reprend la même chose. Il dit, mon cher Théophile! Je vais te raconter la suite, quelque chose que tu peux vivre, qui peut changer ta vie, qui fait que tu passes pas seulement de l'essentiel, mais il y a plus que l'essentiel pour toi. Et pour toi qui es là, en cet instant, écoute ce message, Dieu a plus pour toi que l'essentiel. Regardez le verset 2. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, et là, il est en train de parler du repas du poisson grillé qu'on a juste eu avant. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et ils sont restés là, à attendre, à prier, à chercher. Verset 8, tout le monde va lire à voix haute. Tout, on va lire ensemble. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez, recevrez quoi ? Sa puissance ? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie. Est-ce que la Guadeloupe, c'est le bout du monde? Pour moi, c'est le bout du monde. Mais moi, j'habite dans le Finistère, donc j'ai rien à dire, parce que Finistère, c'est la fin de la terre. Jusqu'au bout du monde, l'évangile est arrivé. Quand vous allez à Kinshasa, c'est le bout du monde pour moi. Mais jusqu'au bout du monde, Dieu est allé. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que le baptême dans le Saint-Esprit se limitait au parler en langue. Et en fait, j'ai repassé du temps sur ce verset et je me suis dit, mais il y a 4 trésors que l'on doit ouvrir pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, descendra sur vous. Comme quelque chose qui coule en grec, quelque chose qui vient, qui vous inonde, qui vous coule dessus, qui vous envahit. Vous avez pris une douche ce matin? Répondez pas si c'est non, hein. Ça pourrait juste poser quelques problèmes par rapport à votre voisin. Mais quand vous prenez une douche, vous rappelez cette sensation-là de l'eau qui coule. Mais l'eau, elle coule, mais partout, elle cherche le chemin et elle coule de partout. Et vous êtes comme immergé. Quand vous prenez un bain, l'eau, elle partout. Et c'est étonnant parce que c'est exactement ça qu'il dit. Vous recevrez un Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et le premier point de ce verset, c'est il y aura une immersion. Mais vous savez, quand je plonge dans le bain, il y a des bulles, il y a des choses qui débordent. Et quand je suis la première fois que je suis allé dans l'eau, je me suis rendu compte en vivant ce que Shaina a vécu, c'est-à-dire il y a des pleurs qui sortent au tout début quand vous mettez un bébé dans l'eau, un bébé sous la douche. Vous avez des pleurs parce que qu'est-ce qui se passe? On perd le contrôle tout d'un coup. Il y a le sentiment de plus respirer, que quelque chose qui n'est pas votre élément naturel vous envahit. Et votre moi a envie de reprendre contrôle. Ça, c'est la même chose quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Tout d'un coup, de l'air sort de votre bouche. Et cet air qui sort, il bouge dans vos cordes vocales et vous commencez à parler en d'autres langues. Vous commencez à dire des merveilles de Dieu qui sort de votre bouche. De l'immersion, ça déborde. Oh, je bénis Dieu le jour où j'ai été baptisé dans ton esprit et je me suis mis à parler en d'autres langues. Selon, comme dit la Pentecôte, acte 2, selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient de Mède, Parthe, Élamite, de la Cappadoce, etc. Ils parlaient toutes les langues des hommes et des anges parce que ça débordait. Est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as été immergé dans le Saint-Esprit? Immersion. Vous l'avez ou pas? Tout le monde l'a pas, c'est pas vrai. Certains d'entre vous ont été baptisés en Saint-Esprit avec... Mais comment on sait qu'on est baptisé en Saint-Esprit? Comment on sait qu'on est baptisé en Saint-Esprit? Je peux te demander quelque chose, Geoffrey? Est-ce que tu peux me donner une chaussure? Je le mets super mal à l'aise, mais bon. Juste une... Regardez vos chaussures. Et vous avez tous une caractéristique, mais pas aussi belle que celle de Geoffrey. Regardez. C'est quoi comme chaussure? Ce sont des Nike. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que c'est des Nike? Vous voyez, il y a une marque, il y a un signe. Et Nike, lorsqu'ils produisent une chaussure, ils veulent être sûrs que c'est certifié. Parce que c'est eux qui ont designé cette chaussure. C'est eux qui certifient que cette chaussure a des coutures et des points réguliers que Nike ose dire comme ça, ça vient de nous, c'est l'original. Le Saint-Esprit ne veut pas être contrefait. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il t'immerge, lorsque ça déborde, il dit, je vais te donner un signe qui est la preuve que c'est moi. Quelque chose que tu contrôles jamais, c'est-à-dire ta langue, parce que de la même bouche sort la malédiction et la bénédiction. De cette langue, tout d'un coup, elle est complètement prise. Merci Geoffrey, c'est formidable. Merci d'avoir choisi des Nike. De cette même bouche, tout d'un coup, certifié. Sinon, tu prierais, regardez les disciples, ils auraient dû prier combien de temps pour être sûrs d'être remplis du Saint-Esprit? Il y a bien eu un signe pour leur montrer qu'il fallait que c'est bon, ils l'avaient reçu. La preuve que tu as été baptisé en Saint-Esprit, c'est quand ça déborde. Ça veut dire que l'eau est montée, que ça déborde. Et de ta bouche sortent des paroles de louange à Dieu. Immersion. Moi, je vais prier pour que tu reçoives le baptême en Saint-Esprit. Tu as besoin d'une immersion. Vous recevrez une puissance. Vous l'avez la puissance ou pas? Oh, vous ne l'avez pas tous, mais je sais, parce qu'on va être honnête. La puissance, on la voudrait. Mais il y a une puissance qui réside lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, quelque chose d'incroyable. Luc 3, 16 nous dit, Jean-Baptiste dit, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Autant l'immersion, c'était de l'eau, le Saint-Esprit qui coule, qui descend sur vous. Premier élément, c'était l'eau. Le deuxième élément, c'est le feu. Est-ce que vous pensez aller de Paris jusqu'à Nice en vélo? Vous pouvez, hein? Vous pouvez, vous arriverez. Si vous êtes un bon sportif, vous arriverez. Vous serez épuisé, vous mettrez des jours, mais vous finirez par arriver. Maintenant, si vous avez une voiture avec un moteur à explosion, vous allez aller plus vite. Ça va aller plus vite, je peux vous dire. Si vous avez du feu à l'intérieur, s'il y a une puissance en vous, on fera le même trajet, mais beaucoup plus rapidement. Ce que dit la Bible, c'est qu'elle dit, vous pouvez, les disciples, voir des belles choses et apprécier votre vie, connaître l'essentiel, c'est bon. Maintenant, je peux vous dire que pour ceux qui le veulent, ceux qui savent attendre et patienter, Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit pour que vous fassiez des choses bien plus puissantes. Bien plus puissantes. D'ailleurs, dans acte 3, regardez avec moi acte 3, il va se passer quelque chose d'énorme, d'incroyable. Tous les jours, deux chrétiens, l'un s'appelait Pierre, l'autre s'appelait Jean, passaient devant un mendiant. Comme toi, tu passes devant un feu rouge et que tu baisses la vitre parce qu'il y a quelqu'un qui te demande, s'il vous plaît, petite pièce. Et il passait devant un mendiant tous les jours. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur donnait, qu'est-ce que Pierre et Jean devaient lui donner chaque jour? Des pièces. Parce que tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu fais avec tes moyens. Lorsque ta collègue au travail te demande des conseils, tu essayes de réfléchir avec ton intelligence et de donner un conseil. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas aller plus loin que tes limites naturelles. Mais regardez ce qui se passe lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la porte du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Vous savez, un autre texte dit que Pierre et Jean se rendaient au temple tous les jours. Donc le gars, il savait que c'était un bon filon. Vous savez qu'ils vous reconnaissent, hein, même au feu rouge. Ah, c'est toi, lui, il m'a donné la semaine dernière, je reviens. Mais regardez ce qui se passe. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement et il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite, le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Vous avez compris ce qui se passe quand vous avez de la puissance ? C'est que vous allez aider avec une pièce si vous faites humainement, mais si vous êtes rempli des Saint-Esprit, la personne va être debout, va être guérie. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille qui non seulement réfléchissait avec son cerveau, mais dont mon papa était capable de dire les miracles, la puissance de Dieu, on l'a vu. Et mon père était capable de dire, il y a ça que Dieu a fait. Jusqu'un jour où c'est moi qui ai fait l'expérience, quand j'ai vu cette dame, cette mamie devant moi qui était paralysée avec une minerve, qui, alors qu'elle était à l'imposition des mains juste devant moi, j'ai vu enlever la minerve et commencer à dire, Alléluia, je suis guéri. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Parce que je me dis, un catholique, un réformé, un luthérien, un orthodoxe, que tout ce que vous voulez, il croit parce qu'il a lu le texte. Moi, je crois parce que j'ai vécu le texte. Vous voyez la différence ? Tout d'un coup, tu as quelque chose de concret, tu l'as vécu. La puissance de Dieu, c'est quelque chose de vécu. Et vous savez ce qui va se passer ? Regardez le verset 8, on reprend. Le premier point, c'était une immersion, descendra sur vous. Le deuxième point, c'est une explosion, vous recevrez sa puissance. Troisième point, vous serez mes témoins. Les témoins, ça te donnera une transmission. Qui a quelqu'un dans sa famille qui ne connaît pas Dieu et à qui voudrait que Dieu le touche ? Levez la main. Vous tous qui avez quelqu'un. En fait, il n'y a personne qui n'a pas quelqu'un. Bon, quand vous parlez de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ils y croient ou pas ? Eh non, il y en a des durs. Mais je vais vous dire quelque chose. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à dire non plus. Parce qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Et je crois qu'une des grosses différences, c'est que quand tu as vécu des miracles, eh ben, tu as quelque chose à raconter. Vous voyez ? Un papa et une maman musulmane qui veulent que leur fils ou leur fille devienne musulman, ils vont lui enseigner les principes. Et puis, statistiquement, il y a à peu près une chance sur deux que la personne reprenne les valeurs de papa et maman. Mais pareil pour un catholique, pareil pour un protestant, pareil. Parce que c'est de la tête que tu transmets. Peut-être que ta fille, elle va suivre, peut-être pas. Maintenant, si jamais tu as vécu quelque chose de très fort parce que tu as vécu la puissance, lorsque tu vas témoigner, ça va avoir une autre saveur. Regardez ce qui se passe dans Acte 4. Le Pierre vient et il commence à parler dans le temple. Il est dit, pendant qu'il parlait ainsi, survinrent quelques prêtres accompagnés des chefs de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple. Pourquoi ? Et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et il se faisait tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. À près de 5000 hommes. Alors que Pierre et Jean sont arrêtés, les autres se convertissent à fond. La transmission, pourquoi tout le monde croit ? Pourquoi ils croient ? Parce que, vous connaissez les pharisiens et les sadducéens ? Il y avait des embrouilles entre ces deux partis religieux depuis des années. Les pharisiens disaient, il y a la résurrection des morts. Les sadducéens répondaient, il n'y a pas la résurrection des morts. Les pharisiens reprenaient, il y a la résurrection des morts. Les sadducéens disaient, non, il n'y a pas la résurrection des morts. Mais si, il y a la résurrection des morts. Mais prouve-le alors. Et là, les pharisiens disaient, Pierre, il arrive, il dit, écoutez, Jésus, on l'a vu, il a guéri un tel, il a fait ça. Vous êtes d'accord ? Vous l'avez vu se faire crucifier sur une croix. On était là pour attester quand il est mort. Il y a eu un jour, il y a eu deux jours, le troisième jour, il est venu vers nous, il a montré ses mains, on a mis les mains dans les clous et ouh, il était vivant. Alors vous voyez, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une transmission comme ça? Et bien là, les gens ils disent, tu l'as vécu, ok. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir de la théologie, mais tu ne convaincras personne. Si tu le vis, la même chose, tu vas le dire, mais avec tes tripes, avec tes émotions, et tu diras, je l'ai vécu. Je l'ai vu. Je crois en la résurrection parce que je l'ai vu. Vous serez mes témoins. Vous savez, la transmission, que vous transmettez ou pas, le Saint-Esprit, il va où il veut. Hein. Une transmission, ça, si jamais l'eau était le premier élément et que le feu était le deuxième élément, la transmission, c'est le vent. Le souffle de l'esprit. Le troisième élément. Vous savez, le souffle de l'esprit, il a déjà soufflé. Hein. Et il soufflera encore. Hein. Et que vous, vous vous réveillez ou pas, mais le Saint-Esprit va souffler. Hein. Parce que je peux vous dire que quand l'église Oido Gospel Church a commencé à louer Dieu ici, là-bas en Corée du Sud, et qu'ils étaient 30 millions au culte ce matin à parler en langue, il s'est passé quelque chose, je peux vous dire. Hein. Quand le Saint-Esprit est passé et que les fuseaux horaires ont décalé, parce qu'il était que 1h du matin en France quand ils ont commencé à adorer là-bas. Hein. Et puis avec le soleil qui se déplace tout d'un coup, il y a nos frères et sœurs du Kenya qui ont commencé à louer. Et ça bouillonne au Kenya. Hein. Parce que quand le Saint-Esprit est là, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose. Puis dans les pays de l'Est, ils ont commencé à louer. Là où ils n'avaient pas le droit de louer il y a quelques temps, ils ont commencé à adorer Dieu en d'autres langues. Et puis il arrive maintenant, voilà, il est exactement pour nous 3h40 et le Saint-Esprit a envie de toucher ton cœur. Et puis, de toute manière, tu sais pas quoi, si tu n'es pas touché. Oh, au Nigeria, ils sont en train de louer. Je peux vous dire qu'ils ont commencé il y a quelques heures, ils sont pas prêts d'arrêter la réunion. Hein, parce que ça tape tellement fort qu'ils sont en train d'adorer depuis des heures. Et puis, quand bien même, le Nigeria arrêterait de louer. Là, les assemblées des dieux chez tous les autres, là, qui vont commencer au Brésil, ça va être le feu. Parce que eux, ils vont commencer à 6 heures du matin pour terminer à je sais pas quelle heure. Et je peux vous dire que quand le feu est là, il se passe quelque chose. Et ils vont pas lâcher l'affaire, nous, au bout de 5 minutes, parce que le culte a duré 1 heure et qu'on a eu assez et qu'on a eu notre petite dose d'évangile, l'essentiel, et on repart à la maison. Ils ont vraiment faim. Ils ont quelque chose à transmettre. Vous êtes encore là ou quoi? Il vous manque quelque chose. Après la conversion, si tu t'arrêtes, c'est certes l'essentiel, mais il te manque quelque chose. Et puis je termine avec ce dernier point. Allez, cette fois-ci, je termine pour de bon. Hein. Vous pourrez vraiment vous lever après. Témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Le premier élément, c'est l'eau. Le deuxième élément, c'est le feu. Le troisième élément, c'est le vent. Le quatrième élément, c'est la terre. Et vous savez, le problème avec la terre, c'est que la terre est grande, mes amis. Et moi, j'ai un problème parce que je ne sais pas où aller. Si jamais je n'ai pas le Saint-Esprit, tous mes choix, je les fais avec ma tête. Pour dire, Seigneur, quel chemin je dois trouver sur la terre? Avec quelle personne je dois m'engager dans ma vie sentimentale? Comment, Seigneur, quelles sont les études qui seraient les plus appropriées? Le travail, est-ce que tu pourrais... Celui qui est rempli du Saint-Esprit, regardez ce qui se passe. Dernier texte, acte 10. L'apôtre Pierre était en train de prier. Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier, il était à peu près midi. Verset 10, acte 10, 10. Il eut faim et voulut manger, et pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait et descendait sur la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Sans faire de jeu de mots, mais pour notre ami Pierre, qui est juif, ça c'est des cochonneries. C'est des cochonneries, les cochons, machin, ils ne mangent pas. Puis les reptiles, c'est des reptileries, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais bon bref, tout ça, il ne veut pas toucher. C'est dégoûtant pour lui. Parce que sa maman lui a dit que c'était pas bien. Parce que sa grand-mère là, lui a dit non, tu fais pas ça. Son arrière-grand-mère, tout le monde. Si les Juifs, on fait pas ça, mon fils. Regardez comment il va réagir. Il va réagir comme on l'a toujours dit. Il va faire exactement ce qu'on devait faire. Et c'est ce qui risque de passer de ta vie si le Saint-Esprit te conduit pas. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que ta mère voudrait que tu fasses. Tu vas faire selon ce que tes conseillers vont te conseiller de faire. Tu vas avoir une vie très sage, très bien remplie. Tu vas faire exactement ce que l'autre a toujours voulu faire. Et ce qui va se passer, il va dire « Oh non, Seigneur !» répliqua Pierre. « Car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Mais la voix reprit, lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par trois fois, cela revenait. puis la nappe disparut dans le ciel. Et Pierre était fort perplexe et se demandait qu'est-ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit « Écoute, il y a trois hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre se leva. Quelle était la probabilité que Pierre se soit levé de lui-même ? Zéro ! C'est des non-juifs ! Je ne traîne pas avec ces gens-là. Mais il va se lever parce que le Saint-Esprit va le diriger vers la Judée, vers la Samarie, vers les extrémités de la terre. Vous comprenez ça ? Oh, si tu laissais le Saint-Esprit te conduire, il y aurait des décisions et des directions dans ta vie qui changeraient. Parce que tu ne ferais pas selon ton intelligence, mais tu ferais selon le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, puisque le Saint-Esprit, vous le dites, est la source de votre vie, ben laissez-le diriger votre conduite. Une immersion. Une explosion. Une transmission. Et le quatrième et dernier, une direction. Voilà ce que tu as besoin dans ta vie pour que le Saint-Esprit vienne et t'inonde complètement. On va fermer les yeux, on va prier. J'arrête là.